Bonjour Michel.
Bonjour Alain, bonjour à toutes, bonjour à tous. En cette deuxième semaine de vacances de février, on va vous proposer un petit voyage sur le pourtour de la Méditerranée. Le pourtour méditerranéen, la Méditerranée touche 22 pays. Alain, je te colle.
Oui, non, mais...
Non,
on va éviter de...
Suivre l'actualité de Châlons en Champagne, écoutez le 90.6.
classe du Collège Notre-Dame.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on parle de deux forces qui peuvent vraiment changer une vie. La confiance et l'autonomie. La confiance, c'est croire en soi. Croire qu'on peut y arriver, même quand tout semble difficile. Croire que nos talents, nos idées, nos efforts ont de la valeur. La confiance, c'est ce petit moteur intérieur qui te dit « Vas-y, tu peux y arriver ». Fermez les yeux un instant. Pensez à un moment où vous avez douté. Et maintenant, rappelez-vous ce moment où vous avez osé. Juste un petit pas. C'est ça la confiance. Elle commence par de petites victoires. Et puis, il y a l'autonomie. Être autonome, ce n'est pas juste faire des choses tout seul. C'est penser par soi-même, choisir ses chemins, prendre des décisions et les assumer. L'autonomie, c'est être capable de dire « Je peux faire ce que je crois juste ». Confiance et autonomie vont main dans la main. La confiance permet d'oser. L'autonomie transforme ce que l'on ose en action réelle. Chaque petit pas que vous faites par vous-même renforce votre confiance. Et chaque fois que vous croyez en vous, vous devenez plus autonome. C'est un cercle qui grandit chaque jour. Imaginez votre vie comme un jardin. La confiance, c'est la terre fertile. L'autonomie, ce sont les graines que vous plantez. Plus vous osez agir, plus vous faites pousser vos talents. Et plus vos talents grandissent, plus vous croyez en vous. La confiance, ce n'est pas attendre que quelqu'un nous donne la permission. Ce n'est pas dépendre des autres pour avancer. C'est se dire « je peux le faire ». Et parfois, ce n'est pas facile. On a peur de l'échec, on hésite, mais la confiance se construit en agissant, pas en attendant. L'autonomie, elle demande du courage. Le courage de décider, le courage d'accepter les conséquences, le courage de se tromper et de recommencer. Chaque décision, même petite, est une victoire. Chaque choix est une occasion de devenir plus fort, plus libre. Prenez un moment, pensez à une décision que vous avez repoussée, un petit pas que vous n'avez pas osé faire. Imaginez maintenant que vous le faites. Ressentez la force que ça donne. Voilà le pouvoir de la confiance et de l'autonomie. Ces deux forces nous permettent de traverser les difficultés. Elles nous donnent la capacité de persévérer, de progresser, de créer. Elles nous rendent responsables et libres. Elles nous apprennent que la vie n'est pas seulement ce qui nous arrive, mais ce que nous en faisons. Et surtout, elles s'apprennent chaque jour. Dans nos gestes, dans nos choix, dans nos interactions, chaque effort compte. Chaque initiative compte. Chaque pas fait grandir. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi. Osez croire en vous. Osez prendre vos décisions. Osez agir, même un petit pas. Faites de chaque jour une occasion de cultiver votre confiance et votre autonomie. Parce que plus vous les nourrissez, plus vous découvrez votre force, votre liberté et votre potentiel. Rappelez-vous, la confiance et l'autonomie ne sont pas des destinations. Ce sont des chemins que nous pouvons parcourir tous les jours, à notre rythme. Et chaque pas que vous faites sur ces chemins vous rapproche de la personne que vous pouvez devenir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, osez, avancez, créez et souvenez-vous, chaque petit geste, chaque petit choix, chaque action est un pas vers plus de confiance et plus d'autonomie. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel.
Radio Mono sur le 90.6 et radiomono.net.
Bonjour Michel.
Bonjour Alain, bonjour à toutes, bonjour à tous. Indigène vous propose de faire une petite visite à la perfide d'Albion. Une visite qui va s'échelonner...
Oh, on va dire en Angleterre. Pardon ? On va dire en Angleterre.
Oui, l'Angleterre, évidemment. Une petite visite qui va s'échelonner sur les années 60 à 90. Donc on va picorer du Donovan, Orchestral Manoeuvre, Ayla Sindiaza, Procol Harum, Peter Gabriel et les Sœurs de la Miséricorde. Voilà pour le programme, il est dense. Donovan, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ?
Quelques mots sur Donovan. À la demande générale. Alors, il avait une mère qui s'appelait Winifred, née Philippe, qui était ouvrière catholique. Et il avait également un père qui s'appelait Donald Letch, protestant, qui travaillait dans une usine Rolls-Royce. Et la famille a déménagé près de Hallett, c'est-à-dire en Angleterre, du côté d'une province qui s'appelle Hertfordshire. Il apprend la guitare à 14 ans. Donc il côtoie à ce moment-là des gens comme Woody Guthrie, Bob Dylan, Rambling Jack Elliott, qui figurent parmi les influenceurs qui ont nourri sa culture musicale de l'époque. Il était très bon instrumentiste, il s'est lié d'ailleurs d'amitié avec de nombreux musiciens tels que des gens comme Daryl Adams, qui a une très grande influence sur lui, dont les citations et les autres références dans ses chansons ne sont pas rares. Et il doit aussi sa première apparition en 1965 dans une émission télévisée anglaise qui fait connaître du grand public. Il rencontre à ce moment-là Mickey Most, producteur des Animals et des Amman's Mermits, qu'ils font enregistrer avec certains des plus grands musiciens de studio de l'époque comme Jake Bruce, Jimmy Page, John Paul Jones. Et entre 65 et 70, il enchaînera des succès avec des disques qui confirmeront d'ailleurs son talent de mélodiste comme Colors en 1965, comme Sunshine Superman, numéro 1 aux États-Unis, comme Mellow Yellow en 1966, comme The Hurdy Gurdy Man en 1968 et encore L'Alena en 1969. Il entretiendra également de très fortes amitiés avec de nombreux musiciens, dont des gens comme Brian Jones, le guitariste des Stones, dont il élèvera l'un des fils, ainsi qu'avec les Beatles, qui l'aidera à l'écriture et avec qui il participera au cœur de chansons, dont notamment dans Yellow Submarine. Et il enseignera notamment sa technique de picking à la guitare à John Lennon et à George Harrison durant le séjour des Beatles en Inde au printemps 1968, et avec un grand intérêt pour la spiritualité orientale, d'ailleurs comme les Beatles, qui aura joué un rôle important dans l'éveil de l'intérêt de ces fameux Beatles pour les méditations transcendantales. Il participera également au concours psychédélique Flower Power et au mouvement pacifiste des années 1960. Il militera contre la guerre du Vietnam en 71. Il interprétera le rôle titre du film américano-britannique Le Joueur de Flûte, le fameux joueur de flûte, le fameux film de Jacques Demy, dont il composera d'ailleurs, il interprétera la musique. Et en 2009, avec McCartney, Ringo Starr, Mike Love, des Beach Boys, Moby et d'autres artistes, il participera à un concert de soutien de la fondation David Lynch, dont il sera un des fondateurs, et à l'éducation fondée sur sa conscience, c'est-à-dire la pratique de la méditation transcendantale dans les écoles. Voilà quelques mots sur Donovan, qu'on écoute d'ailleurs.
On va écouter « My love is true ». Mon amour est vrai. C'est parti.
My heart is like a flower for my love that blooms as I hold it tenderly, but it's rooted deep in fear, just as heavy as a tear that whisper low. We'll be right back.
Continue, on va se rapprocher de notre époque, on va dire ça comme ça, prendre un petit peu de nouvelle vague avec Orchestral Manoeuvre. À l'époque, ça avait été un tube. Enola Gay, c'était en 80, Enola Gay, c'était l'avion, effectivement,
oui,
qui a bombardé Hiroshima. Et puis on enchaînera sur un groupe qui est moins connu en France, mais qui tourne toujours, Alias in Gaza, All Lone Horse. On écoute ces deux groupes, ces deux morceaux. C'est parti. C'est tout de suite. On s'était promis de faire une petite version rock, évidemment. On peut pas penser à la perfide Albion sans penser au rock. On va retracer un petit peu l'histoire par un groupe un petit peu moins connu ou connu pour un slow, c'était Proto La Room. Alors Proto La Room, si tu peux nous faire une petite biographie de ce groupe qui a été multipersonnel. Le membre fondateur était Gary Brooker.
Oui, bien sûr. Bon, tout le monde se souvient de Proco La Room. C'est un des premiers morceaux sur lesquels on a pu effectuer les premières rencontres.
Le Reader c'était un slow.
Dans nos jeunesses, hein, voilà. Qui a débuté au début des années 60, après avoir participé au groupe éphémère qui s'appelait The Paramounts, où figuraient déjà des gens comme Robin Trower et Chris Copping, et le chanteur, pianiste, compositeur Gary Brooker, qui a rencontré le poète Keith Red, un ensemble où furent écrits quelques chansons qui proposaient à des artistes en vogue comme The Beach Boys, mais sans succès. Et ils décident alors de les interpréter eux-mêmes et ils recrutent l'organiste Matthew Fisher, le guitariste Ray Rollier et le bassiste David Knight pour former un groupe qu'ils nommeront Proco La Room, un nom étrange, celui du chat d'un de leurs amis d'ailleurs, il faut le savoir, qui a parfois été considéré, à tort d'ailleurs, comme signifiant en latin « au-delà des choses ». Une signification latine peut-être en réalité mot pour mot loin de la réalité, qui peut être complément du procule qui se construit avec la bâtif et donc devant être autrement loin d'elle, comme « is ». Enfin bref, il y a autant d'interprétations possibles que que l'on veut, avec un premier succès, le Slow A White Shade of Pale, inspiré d'ailleurs de la Sinfonia en La majeure de la cantate et de l'aria de la suite pour orchestre en Ré majeur, numéro 3, de Jean-Sébastien Bach, est aussi remarquable par sa sonorité due à l'originalité instrumentale des deux claviers, dont l'envoûtant orgamon de Matthew Fischer, soutenu par le piano de Gary Brooker, que par les paroles énigmatiques de Keith Reid, qui obtient rapidement un immense succès dans le monde entier et qui se vendra à plus de 10 millions d'exemplaires. Après l'arrivée du batteur Wilson et le remplacement du guitariste par Robin Trower, le groupe connaîtra de nouveaux succès avec les titres Humbug et puis Sally Dog, mais c'est dans leurs albums que se révélera le mieux la richesse de leur musique aux harmonies subtiles à l'influence de la musique baroque. Entre White Shade of Pale, le morceau instrumental Repent Walpurgis, comportant d'ailleurs un large extrait du premier prélude de Jean-Sébastien Bach, s'ajoutent des inspirations blues, puis rock et blues et pop qui servent à merveille d'ailleurs les paroles hermétiques de Keith Reid. Celui-ci, bien que ne jouant d'aucun instrument d'ailleurs, est considéré comme membre à part entière de Procola Harum et figurera sur de nombreuses photos du groupe. Après la sortie du troisième album, l'organiste Matthew Fischer quittera le groupe pour entamer une carrière soliste, suivi de peu par le bassiste David Knight, et l'ex-Paramount Chris Cooping sera alors recruté pour les remplacer tous les 2 ans. Et l'orgue y perdra d'ailleurs son rôle prédominant au profit de la guitare de Robin Trower. Cependant, le jeu de celui-ci, très marqué par celui de Jimi Hendrix, s'accordera de moins en moins avec ce style baroque du groupe, et Robin Trower finira par créer sa propre formation, sera remplacé par Dave Bailey. Et le premier succès de White Shade of Pale, que le groupe d'ailleurs traînera comme un boulet au point de ne plus l'interpréter lors de ses concerts, ne se renouvellera pas. L'intérêt du public pour Procola Harum semblera être nettement retombé quand sortira son 6e album, le premier en public, où le groupe sera accompagné de 70 musiciens et choristes. Ça s'appelait d'ailleurs Procola Harum Live with the Edmonton Symphony Orchestra. Il y aura un succès retentissant, classé numéro 5 aux États-Unis, notamment grâce à leur reprise orchestrée d'un morceau de leur premier album qui s'appelait Conquistador, avec un succès à nouveau. Rendez-vous avec un album suivant qui s'appelait Rent Hotel, et par la suite, les ventes du groupe, handicapées par des fréquents changements de musiciens, chuteront à nouveau, et Procola Harum est finalement dissous en 1977, et Gary Brooker entamera une carrière solo à ce moment-là. On les écoute ?
On les écoute, on va écouter un morceau beaucoup plus rythmé qui s'appelle Nothing But The Truth, rien mais la vérité.
On est parti.
It seems as clear as yesterday. Became insanity. An awful gaping scream. So sad to see such emptiness. So sad to see such tears. And heaped up leaves of bitterness turn moldy down the years. Nothing.
as clear as yesterday. Because dancing the beat, we lie in darkest night for good.
Maintenant, si tu veux bien nous parler d'un petit jeune qui se lance dans le monde de la musique, un certain Peter Gabriel, c'est ça ?
Oui, on va parler de Peter Gabriel. Bon, il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs de ce monsieur qui a vendu 40 millions d'albums durant sa carrière solo. Il est né donc en 1950, le 13 février 1950, à Chobham, dans le Surrey. C'est un auteur, compositeur, interprète, producteur de disques britanniques, donc chanteur, instrumentiste. Il jouera de la flûte traversière, du piano, des claviers, des percussions, de la batterie, et occasionnellement il sera acteur. Il connaît d'abord la célébrité comme cofondateur, chanteur et principal parolier du fameux groupe rock progressif Genesis, créé en 1967, qu'il quittera en 1975, remplacé au chant d'ailleurs par le batteur. Deuxième voix et choriste Phil Collins, et il entame alors une carrière solo couronnée de succès, notamment à travers la réussite internationale de son album So en 1986. Gabriel sera d'ailleurs l'un des premiers à inclure le genre world music dans ses propres compositions, et sera également producteur de disques par le biais de son label Real World. Et par ailleurs, il sera depuis de nombreuses années, il sera impliqué dans différentes associations humanitaires et recevra de nombreux prix internationaux pour ses actions, notamment dans ce domaine. Il aura vendu donc, comme je le disais tout à l'heure, plus de 80 millions d'albums durant sa carrière solo. Voilà. On l'écoute ?
On va écouter Not One of Us et puis on enchaînera par une chanson qui s'appelle Le Temple de l'Amour, qui est présenté par les Sœurs de la Miséricorde, c'est-à-dire The Sister of Mercy, et la chanson c'est Temple of Love. Sister of Mercy, c'est un groupe plutôt gothique punk. On écoutera tout ça. Pour l'instant, place à Peter Gabriel, Not One of Us. C'est parti. We'll be right back.
across this land. In the temple of love you hide to death, believing pain and fear outside. But someone near you rides the weather, and the tears he cried will ring on walls as wide as the lover's eyes. In the temple of love, temple of love, cry like rain. In the temple of love, hear my calling. In the temple of love, hear my need. And the devil in a black dress watches over. My guardian angel walks.
blow the wave. When stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watches over.
Morceau de 8 minutes, il faut écouter Radio Mono pour avoir des morceaux de 8 minutes aujourd'hui.
Oui, c'était des enregistrements assez longs et assez rares. C'est un groupe qu'on connaît pas tellement et pourtant, effectivement, pas de reste souvent avec. Il n'est pas de meilleure compagnie qu'une se fixe, c'est ce que je dis souvent en fin d'émission, mais restez fidèles à nos 90.6, c'est la fréquence de Radio Mono. Et nous, on se retrouve très vite. Bonne semaine à toutes, bonne semaine à tous.
Au revoir.
Très vite, au revoir. 90.6.